aujourd'hui un zèbre, un animal rare. Il s'appelle Jean-Marc Borello. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président fondateur du groupe SOS délégué national à la transformation économique et sociale chez En Marche. Et c'est la raison pour laquelle on souhaitait vous inviter ce matin, parce qu'il y a toute une série de malheurs sociaux dont vous êtes en quelque sorte le spécialiste. On va les égrener entre les violences scolaires et la question des drogues. Et il y a aussi une question politique, un volet politique dont vous êtes tout aussi spécialiste, puisque vous êtes un fidèle de la première heure d'Emmanuel Macron, ce que l'on appelle un visiteur du soir. On le dit parce qu'il n'y a pas Frédéric Seitz, il n'aime pas l'expression. Et on va évoquer tous ces thèmes. Tout d'abord, j'aimerais entendre votre analyse sur la question des violences scolaires qui est aujourd'hui au cœur de l'actualité, Jean-Marc Borello. Comment faire pour lutter contre des enfants violents? Vous avez débuté en étant éducateur de rue. Aujourd'hui, vous êtes patron d'un énorme groupe avec 17 000 salariés. L'éducateur de rue, que faisait-il contre les violences scolaires?
L'éducateur de rue, il évidemment réagit de la manière la plus ferme possible face à tout type de violence. Et en même temps, il sait que seule la prévention de ce type de comportement peut permettre de les éviter. Donc évidemment, il doit y avoir une réaction absolument proportionnée à ce type de violence. Mais surtout, il faut faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de territoires dits abandonnés de la République. Et je pense que les efforts que nous venons de faire sur le dédoublement des classes en zone ZEP et ZEP+, le fait que les enfants puissent être mieux pris en charge, moins présents, moins nombreux dans les classes, permettra d'éviter ce type de comportement dans quelques années. Mais évidemment, il y a à la fois la réaction immédiate et à la fois un vrai travail de prévention et d'investissement sur ces quartiers difficiles.
Qu'est-ce qui rend un jeune violent, d'après vous ?
Ce qui rend un jeune violent, c'est l'idée qu'il est assigné à résidence pour le reste de sa vie, parce que il est né dans un quartier, parce que il a un nom de famille ou un prénom stigmatisant, parce que il n'a pas de formation, parce qu'il ne voit pas d'avenir, et que donc, quand on n'a rien à perdre, on adopte des attitudes désespérées. Évidemment, il faut faire en sorte d'aller chercher ceux qui sont le plus éloignés et de leur redonner la possibilité d'avoir un espoir et un engagement citoyen pour devenir un jour un citoyen. Citoyen libre et responsable.
Et ça peut se faire comment? Alors, on comprend qu'il y a des mécanismes qui, à l'échelle de la société, peuvent fonctionner ou pas, d'ailleurs, le dédoublement des classes ZEP, mais vous les avez côtoyés d'homme à homme, tous ces jeunes. Qu'est-ce que vous leur disiez? Qu'est-ce qui peut fonctionner comme langage avec eux?
Je crois que le sujet pour un éducateur, c'est d'outiller un enfant. Un enfant, c'est pas un petit adulte, c'est un adulte en devenir. Et donc, il faut l'outiller avec l'éducation, la culture, la formation, l'engagement citoyen. Et ça, c'est un sujet majeur, parce qu'il y a en même temps des tas de jeunes qui s'engagent dans le monde associatif, qui s'intéressent à la transition écologique, qui se mobilisent pour la planète. Nous avons une administration du ministère de la Justice, la protection judiciaire de la jeunesse, qui fonctionne extrêmement bien. Et la justice des mineurs est une justice qui fonctionne bien. Le taux de récidive est extrêmement peu important à partir du jour où des mineurs ont été présentés à un juge pour enfants. Il faut des moyens pour cette justice et il faut permettre que l'ensemble de ces enfants qui sont ni les enfants de la justice, ni les enfants de la DAS, mais les enfants de la République, entrevoient un avenir et qu'on leur explique très clairement qu'ils ont une place dans la société.
Mais alors, ça théoriquement, on vous suit, Jean-Marc Borello, mais pratiquement, quand vous avez un jeune, par exemple, qui sait que il va gagner plus d'argent dans la délinquance en revendant de la drogue, alors peut-être que vous allez amender ça. Je vous en parle parce que vous avez fait 1000 métiers, vous avez été dans la prévention de la toxicomanie, vous avez lutté également contre le sida, l'une des conséquences possibles de la toxicomanie. Comment on fait pour convaincre un jeune que dealer, c'est pas un métier d'avenir?
Alors évidemment, on associe la répression et l'éducation. Il n'est pas question de laisser se développer des pratiques de délinquance ici ou là, et surtout pas que s'instaure dans un certain nombre de quartiers une prime à celui qui deal, en l'occurrence du cannabis, puisque c'est souvent le cas. Le sujet est à l'étude, il sera abordé pendant le quinquennat, il faudra se poser les vraies questions. Nous avons la politique la plus répressive d'Europe et le plus grand nombre de consommateurs. À un moment donné, il faut être pragmatique et se demander si on ne doit pas faire un constat, ce qui a été fait par ce gouvernement sur l'ensemble des sujets, un constat sévère de la réalité et faire des propositions pour que les choses évoluent. Mais en même temps, encore une fois, il faut permettre d'ouvrir d'autres solutions. Si vous n'avez aucune autre solution pour votre jeune vie que de ne pas sortir de ce quartier et trouver une économie de subsistance ou de survie dans le quartier, il est évident que vous aurez des vraies difficultés. Mais le succès des emplois francs pour ceux qui quittent leur quartier et trouvent un job à l'extérieur démontre qu'il y a une volonté. Et moi, j'ai toujours considéré depuis près de 35 ans que lorsqu'on tendait la main à quelqu'un en difficulté, il s'en saisissait. Et le groupe SOS est effectivement le premier offreur de soins en matière de toxicomanie sur ce pays. Nous avons depuis plus de 30 ans la démonstration qu'à partir du moment où on s'intéresse à eux, ils sont capables de reprendre le chemin d'une vie citoyenne classique.
Alors là, peut-être qu'en quelques mots, il faut présenter ce qu'est le groupe SOS. Et donc, je l'ai dit, 17 000 salariés présents dans différents pays. Qu'est-ce que vous faites, Jean-Marc Borello, pour que les auditeurs imaginent le périmètre de votre intervention?
Le groupe SOS, pour aller vite, est un groupe associatif. Sa particularité, c'est de ne pas avoir d'actionnaire et d'avoir 70 métiers différents. Mais pour aller vite, nous gérons des hôpitaux, des maisons de retraite, des structures pour jeunes, des structures pour personnes en situation de handicap, un gros dispositif de transition environnementale avec les fermes d'avenir, avec des dispositifs qui permettent les circuits courts. Nous avons des dispositifs d'insertion par l'activité économique qui permettent à ces jeunes très éloignés de l'emploi de retrouver une activité, une formation et donc d'aller vers l'emploi qui est objectivement le seul moyen réel d'émancipation et de liberté. Donc l'idée, c'est...
Ça, c'est votre côté macronien.
C'est le côté d'un éducateur pragmatique qui considère qu'à partir du moment où un individu a un salaire de quoi se loger, de quoi vivre dignement, il n'a aucune raison de se lancer dans des activités diverses et variées et spécialement illégales.
Mais alors, juste pour que l'on comprenne bien, le groupe SOS, donc, ne fait pas de bénéfices pour les actionnaires, il fait des bénéfices pour les associations. Vous avez beaucoup de trésorerie, du coup, vous poursuivez votre activité dans différents registres avec des publics qui sont des publics dits difficiles. C'est ça, Jean-Marc Borello?
On essaie de faire des résultats, parce que quand on gère une entreprise, la responsabilité, c'est de faire des résultats. Sauf qu'effectivement, n'ayant pas d'actionnaires, n'ayant pas de dividendes à distribuer, l'ensemble de ces résultats sont réinvestis pour s'adapter aux besoins nouveaux de la société qui nous entoure et lancer des expérimentations. Je crois que la marque de l'économie sociale et solidaire, c'est l'innovation, c'est la capacité d'inventer des choses différentes, tant sur le plan strictement économique, effectivement, 18 000 salariés, une présence dans 40 pays, ça peut ressembler à une multinationale, à la différence près que personne n'est propriétaire de quoi que ce soit dans cette maison et que personne n'en sera jamais propriétaire. C'est l'économie au service de l'intérêt général, c'est un peu le sujet qui rejoint la Macronie dont vous parliez.
Et lorsque l'on suit votre trajet, puisque on entend dans votre accent, un accent marseillais, vous avez débuté avec Gaston Defferre, il y a aujourd'hui dans certains quartiers de Marseille une économie de la drogue évidente. Ça serait pas plus simple de proposer à Emmanuel Macron de dépénaliser le cannabis, par exemple ?
Je crois que le débat aura lieu, en tout cas, sur la pénalisation ou la manière de traiter la vente de cannabis. Moi, sur ce sujet, je m'exprime depuis 30 ans, donc je vais
Qu'est-ce
pas changer de point de vue. Je considère qu'il est urgent de dépénaliser et de faire en sorte que les toxicomanes soient traités comme des malades et pas comme des délinquants. Les expériences
des gens
dans d'autres
pays... Des gens qui fument du cannabis, vous pensez des malades? Il y a beaucoup de malades.
La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a d'une part une consommation récréative qui, objectivement, d'adultes insérés, qui ne me pose pas de problème particulier. Et il y a un vrai problème de santé publique avec des jeunes gens de plus en plus jeunes qui fument de plus en plus des produits de plus en plus forts. Donc la réalité, c'est que la prohibition n'a pas permis d'améliorer la santé publique et je crois qu'il est temps de passer à une logique de réduction des risques puisque nous avons échoué sur le plan strictement pénal. L'ensemble des intervenants seront interrogés, aussi bien les répressifs que les éducatifs, et un débat sans doute aura lieu. En tout cas, ça fait partie des dossiers qui, me semble-t-il, doivent être ouverts.
Mais même mieux que ça, puisque on voit que dans les pays comme par exemple les États-Unis, le Canada, qui ont dépénalisé le cannabis, c'est devenu une économie plutôt prospère. Est-ce qu'il n'y aurait pas cette branche-là à saisir en France,
alors,
Jean-Marc Borello?
Encore une fois, on ne peut pas examiner les sujets de société à l'aune de leur rentabilité économique. On a un vrai problème de santé publique. Il y a un sujet économique qui fait une économie parallèle qui objectivement est problématique dans ce pays, et il y a l'obligation de santé publique, parce qu'évidemment, personne ne peut considérer que fumer du tabac ou du cannabis soit un plus pour la santé publique. Donc, on est plus dans une logique...
Certains médecins le pensent, dans certaines circonstances.
Alors, le cannabis thérapeutique est déjà autorisé dans un certain nombre de sujets pour ses vertus apéritives, ou dans un certain nombre de cas, y compris à une époque, dans les premiers traitements pour les personnes atteintes du VIH, parce qu'il permettait d'atténuer la douleur. Mais la prescription thérapeutique est possible. Je pense qu'il faudra raison garder entre la logique économique et sécuritaire et la nécessité d'être absolument bon sur la santé publique. Il faudra arbitrer là aussi et sortir de la situation actuelle, évidemment.
Alors Jean-Marc Borello, je ne vais pas vous poser cette question pour tous les sujets qu'on aborde, mais quand vous lui dites ça à Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il répond ?
D'abord, je pour reprendre votre expression que je n'aime pas beaucoup, je ne suis pas un visiteur du soir.
Vous êtes d'accord avec Frédéric Seyss.
Donc je ne suis pas un visiteur du soir. Il m'arrive d'aller
en journée
et rencontrer des conseillers parce qu'ils travaillent sur des sujets que je connais. Objectivement, le président de la République a à sa disposition toute une série de conseillers qui sont là pour ça. Il n'a pas spécialement besoin qu'on vienne lui raconter des histoires. Il les connaît bien. On a visité ensemble pendant la campagne toute une série de dispositifs en Seine-Saint-Denis, des structures pour enfants autistes. Là, il y avait nécessité de se forger un point de vue. Nous l'avons fait. Et en petit nombre et sans presse. Il s'est forgé un point de vue. Aujourd'hui, la mécanique institutionnelle, c'est qu'il a des conseillers, des ministres en charge. Je pense que l'histoire des visiteurs du soir est une aimable fable.
Mais pour l'autre versant, est-ce que ce serait inouï, par exemple, d'imaginer une légalisation du cannabis? Parce qu'on voit déjà que le fait de passer à une contravention, c'est quand même une demi-mesure. On voit bien quand même que le sens de l'histoire, c'est d'imaginer que ce produit sera licite dans quelques mois, quelques années, non?
Le sens de l'histoire, c'est que tout le monde considère qu'un certain nombre de produits, dont le tabac, le cannabis et l'alcool, ne sont pas excellents pour la santé. Et que le sujet majeur n'est pas de consommer mieux, mais de consommer moins, voire d'arriver à une disparition, en particulier pour un adolescent. L'utilisation du cannabis est objectivement désastreuse sur le plan au moment où il doit s'insérer, où il doit apprendre, où il doit grandir. Évidemment que la consommation de cannabis n'aide pas. Donc bien évidemment, je suis favorable à ce qu'on fasse en sorte que les adolescents fument de moins en moins, voire plus du tout. C'est vrai pour le tabac, c'est vrai pour le cannabis, c'est vrai pour l'alcool. Je préfère qu'ils se passionnent pour le sport et la culture.
Vous voyez d'autres drogues monter ?
Il y a toujours eu des drogues de synthèse qui sont arrivées à des moments divers de l'histoire, mais le vrai sujet, c'est que la drogue est la conséquence de mal-être. La drogue, c'est pas la rencontre simple d'un produit et d'un individu. C'est la rencontre d'un produit, d'un individu souvent en difficulté, et d'un moment culturel qui fait que cette rencontre fait qu'on devient ou pas dépendant des drogues diverses et variées. Donc le sujet, c'est attaquons-nous aux causes. Je pense qu'un ado qui va bien, qui est inséré, qui a de bonnes relations familiales, qui a des passions, et il y a des tas de choses pour lesquelles on peut se passionner dans ce pays, il n'a pas spécialement envie de s'enfermer dans sa chambre et de fumer des jouets.
Alors, autre pathologie sociale que vous connaissez, la radicalisation, là aussi elle est dans l'actualité, Jean-Marc Borello, vous qui êtes président du groupe SOS, le policier chargé de la protection de RIS, le patron de Charlie Hebdo, a été écarté car il aurait été radicalisé, on le lit dans la matinale du Monde. Vous avez décidé avec le groupe SOS de faire une formation de déradicaliser certains jeunes. Je pensais que c'était passé de mode, qu'on s'était dit qu'on n'y arrivait pas.
Je crois que la responsabilité d'une entreprise sociale comme celle du groupe SOS, c'est d'essayer d'apporter des réponses nouvelles à des problèmes anciens, comme le cannabis dont vous parliez, ou évidemment de s'adapter à un certain nombre de jeunes parce qu'ils vont mal, parce qu'ils ont été manipulés, parce que leur vie devient impossible, s'aventurent dans des histoires extrêmement compliquées. Et donc effectivement, le groupe SOS a gagné un appel d'offres pour prendre en charge les personnes sortant de prison radicalisées. Donc l'expérience vient de démarrer à Paris, elle démarrera à Marseille à la fin de l'année. Nous allons travailler avec des spécialistes de l'islam, avec des psychologues, avec des sociologues, pour faire en sorte que ces personnes, qui ne sont pas forcément des jeunes, aillent mieux et qu'on puisse permettre l'éducation de ces personnes pour évidemment faire en sorte qu'ils ne soient plus embarqués dans des fariboles. Bien souvent, la pathologie sociale et psychologique est sous-jacente dans ce genre de dispositif. Ce sont des personnes fragiles. Il faut réprimer sans état d'âme des comportements qui mettent en danger la vie d'autrui. Et il faut prévenir parce qu'on ne peut pas les enfermer à vie et qu'un jour ou l'autre, il faut qu'ils sortent et qu'on nous fassions en sorte qu'ils ne présentent plus de problèmes ou de dangers pour le reste de la société.
Mais alors, qu'est-ce que vous allez faire qui n'a pas été fait avant? Parce que, bon, j'ai l'impression que ça a vraiment été la débandade, cette histoire de déradicalisation.
Ce qui n'a pas été fait avant, c'est la déconstruction des discours terroristes, parce que un certain nombre de fake news et de dispositifs parfaitement organisés, entre autres sur la toile, ont tendance à amener ces jeunes gens vers ces dispositifs. Alors, ça n'a pas été fait sur ces sujets-là, mais les sectes existent depuis très longtemps. L'embrigadement dans les sectes correspond à peu près au type d'embrigadement qu'on observe sur aujourd'hui ces personnes-là. Donc, il existe des prises en charge pour les personnes qui ont été embrigadées dans des sectes. C'est à peu près les mêmes sujets avec une coloration particulière qui est une interprétation absolument fausse de l'islam et des sornettes qui sont racontées par de faux imams qui n'ont rien de religieux.
Comment on en est arrivé là? Parce que ça fait des années que vous vous occupez de jeunes en déshérence, Jean-Marc Borello. La drogue, c'est un phénomène qui est ancien. L'alcoolisme aussi. La radicalisation, c'est nouveau. Le fait que des jeunes en France veulent mourir au nom donc d'une religion, un nombre de jeunes importants, je dirais. Comment vous expliquez ça?
Le sujet, c'est pourquoi un certain nombre de jeunes ne veulent pas vivre. Qu'est-ce que nous avons raté pour faire en sorte que des gosses de 18 ans, à une époque, se suicidaient avec une seringue d'héroïne dans le bras, que d'autres vont mener une guerre qui n'a rien de sain? C'est l'abandon de cette population, et l'abandon, il peut se définir au niveau international. Je pense qu'à un moment donné, si la seule main tendue est une main mal intentionnée, évidemment qu'un certain nombre de personnes fragiles tomberont dans les pièges qui sont lancés par cela. Donc encore une fois, nous avons un travail commun. En même temps, faire en sorte d'être absolument impitoyable avec ceux qui abusent des personnes en fragilité, et en même temps, de considérer que ceux qui sont en fragilité ont besoin d'être épaulés.
Mais l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, disait en substance que l'on avait délégué la gestion de certains quartiers aux salafistes plutôt que de la donner aux animateurs sociaux. C'est vrai ou pas?
On a simplement cessé d'intervenir dans un certain nombre de quartiers, et les seules organisations qui ont pris le relais sont souvent des organisations qui ne sont pas toutes mal intentionnées, mais qui sont évidemment, dans un certain nombre de cas, ces organisations salafistes dont vous parlez. Donc il faut être impitoyable avec les organisations en question, il faut réinvestir ces quartiers, il faut affirmer la laïcité de ce pays, c'est-à-dire le respect pour chacun de croire en ce qu'il veut, et en même temps de ne pas croire s'il n'y a pas envie. Ça, c'est l'éducation laïque et républicaine.
Jean-Marc Borello, patron du groupe SOS, on va continuer à évoquer ces pathologies sociale en votre compagnie. On va parler politique également, puisque vous êtes délégué national à la transformation économique et sociale chez En Marche. Vous avez bouclé un accord pour les européennes. Vous allez nous en parler dans une vingtaine de minutes, Jean-Marc Borello. Nous sommes en compagnie de Jean-Marc Borello. Il est président fondateur du groupe SOS. Le groupe SOS est un grand groupe de l'économie sociale et solidaire, plus de 17 000 salariés. Vous êtes présent dans différents secteurs liés à la réinsertion, à la déradicalisation, on en a parlé, c'est votre dernière activité, ou bien encore à l'agriculture dans une perspective écologique. Et puis vous êtes aussi délégué national à la transformation économique et sociale chez En Marche. Et justement, lorsqu'on observe la vie politique d'Emmanuel Macron depuis son élection, on est frappé de voir que cet homme qui présentait tout d'abord un profil balancé, le fameux en même temps, et aujourd'hui peut-être de moins en moins balancé et de moins en moins populaire, pour rebondir à ce que vient de dire Frédéric Saïz, assiste-t-on en France aussi au crépuscule des modérés, selon vous, Jean-Marc Borello?
Bien, si ce crépuscule des modérés est suivi par l'aube des progressistes, ça me va. Moi, je suis plutôt radical. Je pense qu'il faut des solutions radicales à mettre en place face à la détérioration des conditions climatiques. Il faut être radical sur l'abandon d'un certain nombre de territoires de la République dont nous avons parlé. Il faut être radical dans l'investissement contre la pauvreté. Il faut être radical dans la réforme de la santé. Il faut être radical dans la réforme des relations du travail. Il me semble que nous avons été plus radicaux que modérés. Quant à l'équilibre, l'équilibre, il nécessite de mettre un pied devant l'autre. Avant de distribuer de la richesse, il fallait la créer. Les conditions de création de richesse ont été recréées dans ce pays. Aujourd'hui, l'investissement étranger augmente, le nombre d'emplois augmente, le nombre de CDI par rapport au nombre de CDD augmente. Donc un certain nombre de signaux faibles sont présents, mais l'avantage c'est que depuis le terrain, on voit bien les signaux faibles, on voit que les choses sont en train de se transformer, mais effectivement, on ne peut pas avoir un abord tiède, comme sans doute ça a été le cas depuis trop longtemps dans ce pays, qui consistait à distribuer de l'argent qu'on empruntait à nos enfants en faisant grandir la dette. Il y avait nécessité d'être absolument radicaux. Et je pense que les réformes qui sont en cours de fonctionnement sont des réformes radicales.
Alors avant que je ne cède la parole à mon camarade Frédéric Saïs, expliquez-nous malgré tout comment vous en êtes venu à rejoindre La République En Marche. Vous avez commencé en politique avec Gaston Defferre. Je dis commencé en politique, vous n'étiez pas un élu, mais vous avez travaillé à ses côtés. Ensuite, vous avez travaillé avec Laurent Fabius, plutôt socialiste. Qu'est-ce que vous faites chez En Marche ?
Alors d'abord, je n'ai jamais fait de politique. J'étais fonctionnaire et j'ai été aspiré dans des cabinets ministériels.
Vous n'avez pas aspiré contre Saugré, surtout un homme comme vous.
J'avais des responsabilités syndicales, j'avais un certain nombre de sujets à pousser. J'ai mis ce que je savais faire du point de vue technique au service des différents ministres que j'ai servi avec beaucoup de bonheur. D'ailleurs, je me suis toujours très éloigné du monde politique. Je n'ai jamais été militant, je n'ai jamais été élu. J'ai accompagné le président de la République, d'abord parce que je le connaissais depuis 15 ans et que c'était un ami, et ensuite parce que
c'était votre élève,
projet,
il faut le préciser, à Sciences Po.
Il a été dans une classe que j'animais à Sciences Po, donc je le connais depuis très longtemps. D'une part, c'est un ami, et ça n'a rien à voir avec le reste du monde, et ça ne fait pas moi ni un visiteur du soir, ni un conseiller occulte, ni quoi que ce soit d'autre. Juste un ami qui voit d'ailleurs beaucoup moins son ami depuis qu'il est président de la République. Et par ailleurs, le programme qui était envisagé me convenait parfaitement parce que je vivais depuis un certain nombre d'années un écartèlement entre cette volonté de solidarité, cette nécessité d'être plus proche de ceux qui étaient en difficulté, et puis la responsabilité d'un chef d'entreprise, fût-elle sociale, qui passait sa vie à se heurter à des réglementations imbéciles, à des lois du travail trop rigides. Donc objectivement, j'ai eu, en tout cas moi, à titre personnel, l'impression de remarcher sur deux jambes.
Alors certains Frédéric journaux vous ont surnommé le monsieur social d'Emmanuel Macron. De ce point de vue, le social, est-ce que vous êtes satisfait de tout ce qu'a fait le gouvernement depuis qu'il est à l'œuvre ?
Je suis en tout cas extrêmement satisfait des choix qui ont été faits. Je considère que lutter contre la pauvreté, ça n'est pas faire preuve de charité. Je pense que l'idée, c'est que lorsqu'on lutte contre la pauvreté, on investit de manière à faire en sorte que les personnes quittent la pauvreté, et particulièrement la grande pauvreté, et pas simplement aménager une pauvreté plus confortable à laquelle on s'était habitué. Je pense que lorsqu'on donne des droits nouveaux aux personnes en situation de handicap, ce qui a été le cas la semaine dernière au comité interministériel, où on leur permet de se marier, de voter, où on supprime des absurdités qui conduisaient des personnes handicapées avec un handicap définitif à aller 5 fois dans leur vie démontrer administrativement qu'ils étaient bien handicapés. Ce qui est quand même, je pense que le comble de l'absurdité et de l'humiliation, c'est de demander à une personne qui est handicapée d'aller tous les 5 ans justifier de son handicap. Tout ça est supprimé. Je crois que nous avons une volonté de transformation radicale. Et encore une fois, je suis
une
tout
volonté
sauf tiède.
Une volonté de transformation radicale peut-être, mais d'un côté, votre vision omet un certain nombre de mesures d'Emmanuel Macron, des mesures liées plutôt à l'aide aux très riches, dit François Hollande. Face à toutes ces mesures, je ne vais pas en faire la liste, tout le monde les connaît, une réforme de l'ISF qui profite à ceux qui ont une fortune importante, un certain nombre de choix en matière de fiscalité qui pèsent sur les retraites moyennes, disons. Comment vous réagissez par rapport à ça ?
Reconnaître la difficulté de certains, c'est autoriser le talent des autres. Je ne pense pas qu'on fera qu'il y ait moins. Je pense pas qu'il y aura moins de pauvres s'il y a moins de riches. Moi, j'aimerais qu'il y ait moins de pauvres et plus de riches. Permettre au talent d'exister, permettre à la richesse nationale de se développer, c'est absolument essentiel. Ce qui est important, c'est la manière dont on distribue cette richesse. Et la loi Pacte, qui est passée en première lecture à l'Assemblée nationale, va donner enfin la possibilité à un texte et une idée du général de Gaulle, qui ne date pas d'hier, de permettre une meilleure répartition des richesses par la participation et l'intéressement. Nous avons fait des choix vers ceux qui étaient le plus en difficulté. Augmentation de l'allocation adulte handicapé comme elle n'a jamais augmenté. Augmentation du minimum vieillesse comme ça n'a jamais augmenté. Ciblage des efforts de l'éducation nationale dans les quartiers les plus en difficulté. 4 millions de personnes seront concernées par les mesures dans les zones REP et zones REP+. Donc, contrairement à ce qui se dit, même si on a quelquefois l'impression que répéter un mensonge finit par le transformer en vérité, ont été faits en faveur de ceux qui étaient le plus en difficulté. Et je ne parle pas des 15 milliards investi pour lutter contre l'exclusion par la formation professionnelle, les contrats d'alternance qui marchent extrêmement bien. L'apprentissage repart dans ce pays et les parents nous écrivent pour nous dire que c'est extraordinaire parce que l'apprentissage a redonné à leurs enfants un chemin vers l'avenir. Donc les choses sont en train de se faire.
Mais alors, pour rebondir sur la question de Guillaume, vous, dans le groupe SOS que vous dirigez, vous avez limité les salaires de 1 à 10. C'est cette échelle qui prévaut dans votre groupe. Est-ce que vous recommanderiez à Emmanuel Macron de faire pareil, si ça marche chez vous, à l'échelle nationale ?
Non, évidemment pas. Je crois que la liberté... Moi, je crois beaucoup à la vertu de l'exemple. Ce que nous voulions faire, nous, c'était démontrer qu'on pouvait créer une grande entreprise sans actionnaire, une entreprise qui se développe, sans un écart de salaire qui nous paraissait pas légitime. Et il se trouve que cette entreprise accueille depuis 20 ans les meilleurs élèves des grandes écoles d'HEC à Polytechnique parce que les gens ont envie de retrouver un sens à leur emploi. Et moi, j'invite mes camarades entrepreneurs, quelle que soit la structure juridique de leur entreprise, qui sera bientôt facilité par la loi Pacte, avec cette raison d'être qui paraissait saugrenue quand Nicole Notat l'a proposée. Demain, les entreprises pourront être des entreprises inclusives, quel que soit leur choix. Nous avons simplement démontré, de manière sans doute un peu radicale, parce que je dois manquer de nuances à titre personnel, qu'on pouvait avoir une autre économie performante et que cette économie, elle servait l'intérêt général. On ne peut pas opposer l'économique et le social.
Mais on ne peut pas étendre votre modèle ?
Pardon ?
On ne peut pas étendre, généraliser votre modèle de 1 à 10 ?
On peut faciliter ce modèle. J'ai travaillé avec Benoît Hamon à la préparation de la loi sur l'économie sociale et solidaire. On a déjà enfoncé un certain nombre de portes qui méritaient de l'être. Je crois qu'il faut aller plus loin. Le haut commissaire à l'économie sociale, Christophe Ithier, est en train d'avancer. Sur la pauvreté, Noblecourt, Olivier Noblecourt, délégué interministériel, a fait des propositions qui me paraissent réellement révolutionnaires par rapport au passé.
Qu'est-ce qui vous a paru révolutionnaire ? Parce que les observateurs n'ont rien trouvé de révolutionnaire.
Parce que les observateurs voient sans doute les choses peut-être de près. Quand on vieillit, vous savez, on voit moins bien de près, mais sans doute que de loin, on voit un peu mieux. Donc, l'idée générale, c'est que moi, j'ai toujours combattu amicalement cette idée de charité. SOS n'est pas une organisation charitable.
Qui voulait faire de la charité ? Expliquez-nous, parce que c'est la deuxième fois que vous employez ce mot.
La bonne conscience du social vu par un certain nombre de professionnels. Je pense que il y a des organisations remarquables.
Par exemple, le RSA, c'était de la charité ?
L'idée de faire en sorte que la pauvreté soit supportable, que la misère puisse ne pas provoquer de révolution, est une idée qui ne me convient pas. Lutter contre la pauvreté, c'est permettre aux gens d'en sortir. Et il faut être radicaux dans ses choix, radicaux dans ses investissements.
Radical, ça veut dire les obliger à traverser la rue ?
Ça veut dire leur permettre de traverser la rue. Pour traverser la rue, il faut que quelqu'un vous prenne la main si vous n'osez pas le faire. Le travail des éducateurs dans ce pays, des entreprises sociales, c'est justement de tendre la main et de permettre. Mais arriver de l'autre côté de la rue, il fallait qu'il y ait un emploi. des emplois, il n'y en a jamais eu autant disponibles dans ce pays. Vous pouvez.
Ah, là aussi, la question est débattue.
Mais la question est débattue.
Parce que vous êtes un professionnel de ça. Vous savez bien que ces jeunes, leur problème, c'est qu'ils n'osent pas traverser la rue.
Il y avait deux sujets. Quand vous traversez la rue et que de l'autre côté de la rue, la porte est fermée, ça ne sert pas à grand chose et on ne retraverse pas dans l'autre sens. L'idée, c'est de faire en sorte, que de l'autre côté de la rue, des entreprises embauchent. Traverser la rue pour ces jeunes aujourd'hui, c'est leur donner une formation qui leur permettra, de traverser la rue, deux, de retraverser la rue chaque fois qu'ils en auront envie. L'indépendance, c'est une formation personnelle. Le reste, ça n'existe pas.
Alors, vous avez rencontré l'élève Macron au début des années 2000, vous le disiez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y avait déjà chez cet étudiant en germe du macronisme qu'on connaît aujourd'hui ?
Humainement, une curiosité insatiable et un besoin de comprendre, y compris dans le détail, comment on fait évoluer les choses. Je crois que le vrai sujet, c'est que il faut aller jusqu'à ce diagnostic un peu sévère, constater les choses et le dire, les nommer. On ne fait pas disparaître les problèmes si on ne les nomme pas. Et ensuite, élaborer des réponses qui soient des réponses nouvelles. On n'a pas créé l'ampoule électrique en améliorant la bougie. Il y a un moment donné où il faut être capable d'inventer de nouveaux dispositifs, de supprimer tout ce qui empêche cet escalier social ou cet ascenseur social dont on parlait, c'est la possibilité de mettre fin à l'assignation à résidence est un sujet majeur de ce quinquennat et je pense que nous y parviendrons.
Lorsque l'on voit aujourd'hui les éléments de langage qui sont utilisés en Macronie, la symbolique, c'est important la symbolique dans un pouvoir, il y a énormément de gens très talentueux, mais des premiers de cordée autour d'Emmanuel Macron. Vous trouvez pas qu'il y en a trop, que Emmanuel Macron, on a l'impression finalement qu'il veut gouverner la France pour les vainqueurs?
Je crois qu'on gouverne la France pour l'ensemble des Français. Et que il faut à la fois, ou en même temps, pardon d'être caricatural, permettre à ceux qui, pour des raisons diverses et variées, ont eu la chance d'être formés, de créer, de développer, en clair, le monde des start-up, mais pas uniquement, pour pas être caricatural, permettre à cela d'avancer le plus vite possible, en faisant en sorte que ceux qui n'ont pas eu cette chance puissent bénéficier de cette richesse créée. Encore une fois, on n'oppose pas la création de richesse et la solidarité. La solidarité est permise par la création de richesse. Et donc, l'ensemble de la population...
S'il y a redistribution, mais si...
Mais parce qu'il y a redistribution. Le plan pauvreté n'a jamais mobilisé autant d'argent que celui qui vient d'être annoncé par Olivier Noblecourt. Sur la formation professionnelle, c'est 15 milliards qui ont été mobilisés. Donc, nous mobilisons des moyens
l'argent,
considérables.
Il y a toujours eu plein d'argent pour la formation professionnelle. Juste, on ne sait pas où il va.
Sauf que nous réussissons... Alors, on ne savait pas où il va. Aujourd'hui, il est sous le contrôle, de par sa décentralisation, en particulier de l'ensemble des régions en lien avec l'État. Donc, on saura parfaitement où il va. Et si on ne le sait pas, évidemment, on fera en sorte que les opérateurs évoluent. Donc, nous avons
les opérateurs, ce
les
sont
fenêtres.
Les OPCA. Non,
parce que c'est le millefeuille qui
voilà. Parce que personne n'y comprend rien.
Mais quelquefois, quand personne n'y comprend rien, ça arrange ceux qui ont organisé l'opacité.
Les syndicats ?
Pas que les syndicats et toute une série d'organisations.
Je ne vois pas qui d'autre dehors des syndicats.
Vous avez cité un certain nombre d'organismes dont la légitimité n'était plus tout à fait justifiée.
Voilà. Je termine votre phrase.
Voilà.
Frédéric Seize.
On a l'impression que tout vous satisfait dans ce début de mandat d'Emmanuel Macron.
Non.
Vous citez toutes les réussites. Est-ce qu'il y a des choses aussi qui vous insatisfont?
Oui, ce qui m'insatisfait, c'est ce que... en tout cas, ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire l'erreur que j'ai commise depuis le début de cette aventure, c'est de considérer simplement que la priorité était à la réforme et sans doute passer moins de temps à faire de la pédagogie. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de réformes, qu'elles n'ont jamais été aussi importantes, qu'elles se succèdent à un rythme effréné. Sans doute qu'on ne prend plus assez de temps pour expliquer chacune des réformes.
Donc une question de forme, mais pas de fond.
Sans doute que nous ne sommes plus suffisamment pédagogues pour mettre l'ensemble de ces réformes en perspective. Donc il y a une nécessité, alors c'est sans doute pour ça que je suis là aujourd'hui et que je n'ai pas une grande pratique de la fréquentation des médias, c'est qu'objectivement, on s'était dit on transforme, on bosse et les résultats suffiront. En fait, ça ne suffit pas.
Mais rien sur le fond.
Il faut faire de la pédagogie. Sur le fond, objectivement, nous essayons.
La question, la question des migrants, ça vous va pas quand même?
Non, mais la question des migrants.
Jean-Marc Borrello.
Il se trouve que le groupe SOS est l'organisation qui accueille le plus de migrants dans ce pays.
Alors.
J'ai participé avec Monsieur Cazeneuve, qui est un excellent ministre de l'Intérieur et Premier ministre, au démantèlement de Calais. Nous avons ouvert plus de 5000 places en moins de 2 ans. Quelle est la réalité aujourd'hui de ce qui se passe dans nos établissements? Grâce au rapport du député Aurélien Taché, ancien salarié du groupe SOS, qui connaissait un peu les sujets, nous avons aujourd'hui systématiquement les moyens de leur apprendre le français. Nous avons la possibilité d'accélérer les procédures.
Ce que vous faites à SOS, personne n'en dit combien, mais le gouvernement voulait faire l'inverse.
Ce que nous faisons à SOS, c'est ce qui a été rendu possible par les réformes en matière d'accueil de migrants. Le fait de raccourcir les délais pour l'obtention du statut de réfugié, c'est une réalité. Si on veut faire du show business, si on veut annoncer des dispositifs flamboyants, le sujet, c'est que ça ne fonctionne pas. La critique des uns, des uns et des autres est parfaitement utile. Et je crois qu'il faut écouter les opposants responsables qui ont des idées. La caricature me paraît, en particulier depuis certains lieux, plutôt l'hommage de la médiocrité à l'excellence.
Oh, ça c'est méchant. Ça vise qui ?
Je peux le faire.
Mais ça vise qui ?
Ça vise tous ceux qui considèrent que la caricature est un moyen d'expression en politique. Et je considère que, d'une part, les modérés ne doivent pas disparaître, qu'ils doivent devenir plus réformateurs, et que, par ailleurs, nous devons avancer en acceptant la complexité du monde.
Aujourd'hui, vous êtes en politique, Jean-Marc Borrello, puisque vous êtes président de la commission d'investiture pour les Européennes pour la République en marche, ce qui veut dire que si on veut être sur la liste, il faut être adoubé par vous. Et adoubé par vous aussi, en tant que candidat. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez bouclé un accord hier.
Alors, il se passe qu'il ne suffit évidemment pas d'être adoubé par X ou Y. Hier, nous avons nommé une commission de 12 personnes, représentants des parlementaires, députés, sénateurs, des militants de La République En Marche, des spécialistes de l'Europe. Donc, on a bouclé un processus de candidature. Donc, les candidatures vont arriver. Il y en aura vraisemblablement plus de 1000. Il y a une obligation pour cette commission de sélectionner de mémoire autour de 79 personnes qui seront un jour qui seront sélectionnées. Alors, le processus, c'est à la fois le calendrier, évidemment, un processus qui se fixe non seulement un modus operandi, mais aussi des obligations. Et les obligations, j'ai peur d'être terriblement banal quand je dis ça, mais c'est valider le réel investissement européen des candidats.
Donc pas une candidature de témoignage parce qu'on n'a pas eu un poste au niveau national, comme
ça,
c'est arrivé par le passé.
Ça, ce sera proscrit. Il n'est plus question de choisir les plus mauvais d'entre nous ou ceux qui ont raté les 14 autres élections nationales pour les expédier sur un siège, fut-il doré, ici ou là. Deux, une réelle expertise. Assumer l'expertise. L'Europe, c'est un sujet aussi sur lequel il faut être capable de maîtriser les grands enjeux de la transition écologique, les grands enjeux de ce que va affronter l'Europe, c'est-à-dire l'énergie, la défense commune, etc. Donc, assumer cette expertise. Il faudra, même si la liste est nationale, qu'il y ait une représentation des territoires, parce qu'il ne peut pas y avoir des candidats qui seraient tous issus de l'Île-de-France. Il faudra une vraie diversité, il faudra une parité, il faudra dans la liste que s'engagent de véritables Européens avec une compétence politique, parce que là encore, c'est une institution qui n'est pas simple, dont nous avons besoin comme jamais, et qui a besoin d'être réformé comme jamais.
Mais pour l'instant, il y a assez peu de noms, finalement, qui font consensus au sein de la République En Marche. On a même l'impression que ce n'est pas forcément un poste qui attire les figures les plus expérimentées ou les plus talentueuses de la vie politique. Alors, vous avez forcément des gens déjà qui vous envoient leur CV, mais au-delà des candidatures modestes, est-ce qu'il y a un problème pour désigner une tête de liste qui soit reconnaissable par tous les Français, qui tire cette liste dans une élection qui, par définition, sera très difficile? Ce sera la première élection intermédiaire du quinquennat Macron.
Objectivement, nous n'avons jamais manqué de candidats à rien. Pas plus pour former des gouvernements, contrairement à ce qui a été dit. Je dois vous avouer que le sujet, c'est plus le choix parmi les candidats, mais sans doute que le candidat n'est considéré en marche, et c'est vrai sur l'ensemble des postes, qu'en fonction de son projet. Le sujet n'est pas de trouver
l'homme. Il y a eu des petits dosages politiques quand même, Jean-Marc Borello, entre nous, des dosages politiques pour le gouvernement.
Il y aura des dosages politiques, c'est-à-dire que la liste qui sera présentée intégrera les femmes et les hommes de bonne volonté qui viennent d'ailleurs. C'est l'ADN de ce mouvement.
Qui va être tête de liste ?
L'ADN, c'est de dire celui ou celle qui sera choisi parmi celui ou celle qui aujourd'hui celles et ceux qui sont candidats. Mais encore une fois, la réunion de la commission commence la semaine prochaine.
Alain Juppé a vocation à être dans cette liste bien placée.
Pour avoir vocation à être dans cette liste, il faut candidater. Je n'ai pas vu passer sa candidature.
Ça, vous nous avez déjà fait le coup avant, mais Alain Juppé ne candidate pas. J'imagine qu'on lui propose, voyez, quelque chose. Enfin, vous connaissez mieux ces choses-là que nous, Jean-Marc Borello.
On propose à toutes celles et ceux qui remplissent les conditions que je viens d'énoncer d'envoyer une vidéo de 2 minutes, un texte fondateur qui sera examiné par la commission, qui se prononcera de manière démocratique sur qui sera sélectionné. Oui, cette liste sera ouverte, indépendamment de La République En Marche, à celles et ceux qui veulent lutter contre les nationalismes qui se manifestent ici et là. Nous avons un enjeu majeur. On avait en Europe, ici et là, des clowns et des fascistes. Au Brésil, on a un clown fasciste. C'est une nouveauté. Ils ont réussi à se rejoindre. Il est impérieux de défendre nos valeurs, notre programme. Et je crois que le progressisme, c'est un vrai sujet pour demain, entre le fait d'être modéré et le fait d'être extrémiste.
Vous n'avez pas de problème pour recruter, mais vous avez un problème de démission à La République En Marche. Vous êtes chef d'entreprise, vous le savez, Hulot, Colon. Comment vous expliquez le peu de longévité d'un ministre sous l'ère Macron ?
D'abord, je ne suis pas persuadé que si on faisait une statistique des divers gouvernements, il y aurait plus de départs. Je crois que nous avons fait le choix.
Là, je crois que si, un peu.
Nous avons fait le choix de choisir des personnalités qui, d'une part, ne sont pas totalement dépendantes de notre univers. Les députés que nous avons envoyés à l'Assemblée nationale, ils avaient un métier avant. Certains reprendront leur métier après. Nous considérons que la politique ou les fonctions qu'on occupe ne sont pas des sinécures dans lesquelles on s'installe et qui donnent droit automatiquement à une poursuite des activités. Tant mieux si ça bouge, c'est aéré. Moi, je suis ravi de voir aujourd'hui le fonctionnement de l'Assemblée nationale. J'ai participé à la Commission nationale d'investiture aux côtés de Levoix. Nous avons
pris
des législatives, pardon. Nous avons pris des risques. Nous avons pris des risques d'une composition très différente sociologiquement. Je suis ravi de voir la parité. Je suis ravi de voir la diversité. Évidemment, ces malheureux députés ont d'abord été accusés d'être des godillots, ensuite d'être accusés d'être un troupeau désordonné qui ne répondait à personne. C'est
l'un
la
n'empêche
vie
pas l'autre, hein.
Démocratique. Non, parce que ça prouve qu'il y a eu débat. Et je trouve que les choses, là aussi, sont en train de s'organiser.
Mais vous êtes régulièrement cité pour être ministrable. Hein. On voit à chaque fois les papiers qui sortent à l'occasion des remaniements.
Je ne sais plus.
Vous auriez peur de ces responsabilités?
Je serais très mauvais.
Pourquoi vous êtes très bon comme politique?
Parce que je suis totalement indépendant, parce que je suis relativement incontrôlable, parce que je suis globalement radical, parce que je mets avant tout ma liberté, parce que j'ai investi les 35 dernières années de ma vie dans un projet que je considère comme majeur. Le groupe SOS, c'est aussi une manière de transformer le monde, que je suis plus près que de l'arrivée que du départ, qu'il me reste à transmettre, à écrire, à organiser mes camarades autour de moi pour que cette maison fonctionne mieux après mon départ que pendant ma présence. Donc j'ai d'autres priorités, et comme tout citoyen, en plus du temps que je consacre à mon boulot, j'ai un engagement militant qui est celui de délégué national d'En Marche. Tout ça me comble et je n'ai absolument aucune aspiration. Je ne serai candidat à rien, quoi qu'il arrive.
Quand même, vous donnez des conseils à Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il devrait faire pour essayer de faire en sorte que sa popularité remonte? Donc vous parliez de pédagogie. En dehors de ça, Jean-Marc Borello?
D'abord, je ne donne pas de conseils au président de la République. Il m'arrive de dire ce que je pense à lui et à d'autres, et les gens en font ce qu'ils veulent en faire. Je suis absolument persuadé que s'il y a bien quelqu'un qui est capable de décider seul après avoir écouté tout le monde, c'est lui.
Dernière question, Frédéric.
Un dernier mot sur le social. Vous savez que la grande réforme qui arrive sera évidemment la réforme des retraites, avec le fameux point qui doit maintenant permettre que chaque travailleur ait les mêmes droits. C'est en tout cas les éléments de langage, ce sont les éléments de langage du gouvernement. Est-ce que vous, qui dites pour vous-même que vous êtes plus près de l'arrivée que du départ, c'est une philosophie qui vous correspond ou est-ce que ça vous fait un peu grogner ?
La philosophie qui me correspond, c'est de sauver le système tel qu'il est aujourd'hui. Je crois au système par répartition, je crois à la solidarité entre les générations, et je ne veux pas que par médiocrité, on arrive à un système par capitalisation qui serait le plus injuste qui soit. Ensuite, il y a nécessité de faire de la clarté. Aujourd'hui, personne ne sait, en cotisant un euro, ce qu'il adviendra de cet euro au moment où il sera lui-même bénéficiaire de la retraite. Donc, encore une fois, un système qui est en difficulté, il faut faire un diagnostic précis, accepter une réforme qui sera radicale et qui garantira le principe qui est celui de la retraite par répartition, c'est-à-dire la solidarité.